semble les Écritures. Est-ce que vous êtes venu avec l'intention... Tu sais, Morgan, je pense qu'on peut couper la clim carrément si ça t'embête pas, parce qu'il commence à faire frisquer. Est-ce que vous êtes venu avec l'intention d'être nourri spirituellement ce soir? C'est-à-dire de recevoir une parole de Dieu en disant « Je ne vais pas repartir comme je suis venu. Je vais repartir en ayant reçu quelque chose. » Et moi, je crois que c'est exactement l'effet que fait la parole de Dieu. Mais c'est surprenant comme vous pouvez avoir deux personnes assises côte à côte et ils entendent la même chose. Il y en a un qui repart en ayant reçu quelque chose et l'autre repart en disant « Qu'est-ce que je faisais là ?» Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? La décision de notre cœur, de dire « Je veux recevoir quelque chose de Dieu ce soir. » Et je vais même vous dire mieux que ça. Dieu va parler, parle à travers le prédicateur, quel qu'il soit, mais Dieu parle aussi directement dans vos cœurs, dans nos cœurs, pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher. Moi, ça m'arrive régulièrement qu'il y ait un prédicateur qui parle d'un sujet et le Seigneur me dit quelque chose dans mon cœur qui n'a rien à voir avec ce qui est prêché, mais ça me parle à ce moment-là. Donc, assurons-nous de garder cette attitude de cœur lorsque on vient à l'Église et lorsqu'on entend la parole de Dieu. Ceux qui ont pris leur Bible, ouvrez-la dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de Bible, regardez à l'écran si ça fonctionne, sinon regardez sur la Bible du voisin. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Vous savez, il y a mille et un sujets sur lesquels on peut prêcher. La parole de Dieu, elle est riche, elle est diversifiée, elle parle de tout, elle parle de beaucoup, beaucoup de choses dans la vie des gens. Et quand on doit apporter la parole, ben on prie dans un Seigneur. Moi, je ne veux pas leur donner mes bonnes idées, je veux leur dire ce que tu as à me mettre à cœur. Et parfois, eh bien, vous vous demandez pourquoi le Seigneur vous met ça à cœur. Alors, dans ces conditions-là, ben, vous ne vous posez pas trop de questions. Et puis, vous allez avec ce que vous avez à cœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, il nous est dit, même verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. » Donc, l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre, l'adresse à des chrétiens qui étaient dans la ville de Thessalonique. Et il dit donc « Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Parfois dans nos églises, on parle tellement de l'amour de Dieu, on parle tellement de la grâce de Dieu, on parle tellement de la miséricorde de Dieu. Et effectivement, la Bible nous dit « Dieu est amour ». Il n'aime pas simplement, il est amour. Il ne pardonne pas, il est pardon. Il n'exerce pas la miséricorde malgré lui parce qu'il le faut. Non, il est miséricorde. Mais on en oublie de préciser que pour ceux qui n'acceptent pas ce que Dieu a fait pour eux, comment il veut se révéler de la sorte à leur égard? Alors, il y a un autre choix que font ces gens-là, et ce choix-là s'appelle la colère de Dieu. Et la Bible est claire à ce sujet, et pas uniquement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il vient un temps, on va le voir ensemble, où Dieu va juger. Et lorsque Dieu va juger, soit nous sommes sous le bénéfice de sa grâce et de sa miséricorde, parce que c'est ce qu'il veut pour l'humanité, soit nous ne le sommes pas. Et les gens qui ne le sont pas, la Bible nous dit qu'il n'y a pas à ce moment-là de grâce et de miséricorde, il y a une colère de Dieu, qui est une sainte colère. Donc nous avons tous un choix à faire. À un moment donné de notre vie, est-ce que j'accepte cette grâce de Dieu ou est-ce que je n'accepte pas cette grâce de Dieu? On va regarder les Écritures ensemble. Regardez dans Éphésiens au chapitre 2, verset 3. On va regarder plusieurs passages. Éphésiens au chapitre 2, et n'allez pas plus vite que moi, d'accord? Dans vos têtes. Éphésiens chapitre 2, verset 3, il nous est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire des fils de la rébellion, ce qui est écrit au-dessus, des gens qui décidaient de marcher uniquement conformément à leurs cinq sens, uniquement conformément à la façon dont fonctionne leur génération et qui ne se préoccupaient absolument pas de ce que Dieu pensait, de ce qu'il voulait, de ce qu'il avait pour eux, mais qui, bien au contraire, restaient dans une rébellion à son égard. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Ce que Paul est en train d'écrire ici, c'est que l'être humain qui vient sur cette terre, très rapidement, j'ai deux enfants en bas âge, ils ont 2 et 5 ans, Et je m'aperçois que très rapidement, il décide d'enfreindre les règles. Il décide de faire ce qu'ils savent être mal. On n'est plus dans l'innocence. On n'est plus dans la naïveté ou la candeur. C'est un choix délibéré d'enfreindre non seulement les règles, mais les règles pour les règles, ce n'est pas ça qui est important. C'est la différence entre le bien et le mal. Et pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi tout être humain qui vient sur cette planète fait-il cela? Eh bien parce que la nature qui est dans l'être humain, depuis que Adam a accepté de pécher et de se rebeller contre Dieu et de vivre sa vie sans Dieu, ce qu'il n'avait pas envisagé, c'est qu'il allait transmettre à toute la race humaine une nature qui est une nature de rébellion, qui est une nature d'opposition à Dieu, une nature qui est poussée malgré elle à faire le mal alors qu'elle aimerait bien faire le bien, mais c'est plus fort que nous. Et donc, par nature, nous étions, dans d'autres versions, il est dit, nous étions tous destinés à la colère. Mais, si vous regardez le verset suivant, Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà en quoi le christianisme n'est pas un message comme les autres. Je ne vais pas dire une religion, parce que ça n'est pas une religion. Le mot religion veut dire placer à nouveau sous un esclavage. Se placer à nouveau sous un lien, ce que n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu, et pas n'importe quel Dieu, le Dieu tel que Jésus-Christ nous l'a révélé, c'est-à-dire un Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans Jean chapitre 3, il nous est dit, au verset 35 et 36, vous êtes toujours avec moi ? On ne le dit pas d'ailleurs à l'église, mais sachez que vous avez des Bibles qui sont là-bas à votre disposition sur la table de l'accueil pour ceux qui ont besoin de, qui ont oublié la leur et qui veulent regarder. Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils, c'est-à-dire Dieu le Père aime Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas aura la vie éternelle, a la vie éternelle. Maintenant, à partir du moment où nous croyons dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu, et on va voir ce que ça veut dire plus tard, nous avons immédiatement la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, ne verra pas la vie. Mais, qu'est-ce que vous lisez avec moi ? La colère de Dieu demeure sur lui. Et il y a une théorie ou une doctrine dans le corps de Christ qui s'appelle l'universalisme. L'universalisme prétend qu'à la croix, Dieu a sauvé tout le monde. Et que tout le monde ira au ciel, grâce uniquement à ce que Jésus a fait à la croix. Le problème, c'est que ça n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit « Dieu a manifesté sa grâce envers tout le monde et il a offert le salut à tout le monde, mais encore faut-il l'accepter parce que nous ne sommes pas des pantins et que Dieu a décidé de nous créer libres, libres de choisir et, aussi dingue que ça puisse paraître, libres de le rejeter et de le refuser. » La liberté qu'il nous a conférée, elle va aussi loin que cela. Et pour celui qui décide de rejeter la grâce, la Bible nous dit « Alors, la colère de Dieu demeure sur cette personne. » Seulement, les gens ne le savent pas. Et vous comprenez pourquoi il est fondamental qu'en tant que chrétiens, nous partagions ce que nous connaissons. Parce que les gens vont droit au casse-pipe et ils ne le savent pas. Alors, oui, on parle de l'amour de Dieu. Oui, on présente la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'entendre la totalité de ce que disent les évangiles. Et ce que disent les évangiles, c'est que si tu n'acceptes pas la grâce de Dieu, la colère de Dieu demeure sur toi. Et il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre cela. ceux qui méprisent la grâce, ceux qui disent « mais moi, je n'ai pas besoin », alors il faut que tu saches une chose, c'est qu'il nous est dit « tout le monde a péché, tout le monde a été déchu de la grâce de Dieu ». Et en ce qui concerne le péché, qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est le caillou que tu lances dans la vitre. Une fois qu'elle est cassée, que tu lances un caillou ou que tu lances une voiture, la vitre est cassée. Ça ne fait aucune différence. À partir du moment où tu n'es plus au degré de sainteté que Dieu exige pour pouvoir entrer dans l'éternité avec lui, que ce soit parce que tu as menti sur ta déclaration d'impôt ou que ce soit parce que tu as tué quelqu'un, ça ne fait aucune différence. C'est encore pire que ça. Jésus a dit, les intentions, c'est comme les actes. Si tu regardes quelqu'un pour... Jésus a dit aux hommes, si votre regard s'attarde sur une femme pour la convoiter, c'est une chose de voir quelqu'un qui passe et de trouver que la personne est jolie. C'en est une autre que d'avoir un regard qui traîne et de commencer à se faire des films. Jésus a dit, dans ces conditions-là, tu as déjà péché, tu as déjà été au lit avec elle, dans ton cœur. Vous vous rendez compte ? Donc, la Bible est claire là-dessus en nous disant, la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Mais si tu ne l'acceptes pas, il y a un autre aspect des choses. Et on ne peut pas le passer sous silence, parce que les Écritures en parlent. Et si les Écritures en parlent, c'est que nous devons en parler. Regardez avec moi, dans Jean au chapitre 5, un petit peu plus loin, verset 22, il nous est dit, « Le Père ne juge personne. » Alors, je ne sais pas comment certains peuvent prêcher autre chose, mais c'est écrit ici. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et si vous relisiez dans le chapitre 3 de Jean, il nous est dit au verset 16, pardon, au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, Dieu, ça peut être aussi, on parle de la Trinité, c'est intéressant, on va en parler dans les groupes de maison, Dieu le Père ne jugera personne. Il y a un jugement que Dieu a fait, et on va en parler. Depuis, c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de juger. Et il nous est dit que, pour l'instant, il n'est pas là pour juger quiconque, il est là pour sauver tout le monde. Tous ceux qui l'acceptent. Ensuite, il nous est dit, toujours dans Jean chapitre 5, en vérité, verset 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que ce jugement dont parlent les Écritures, si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu l'as invité, si tu as fait de lui ton Sauveur et ton Seigneur, alors tu ne passeras jamais dans le même jugement que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Il y a des gens qui ont peur en disant « Oh là là !» Je parlais avec mon associé aujourd'hui, il m'a dit « Il y avait un rabbin à l'époque, mon associé est juif pratiquant, et il m'a dit « Il y avait un rabbin à l'époque, mon associé pas dans l'église, hein. J'ai une profession à côté, outre le pastorat, et c'est dans cette profession-là que je suis associé avec quelqu'un. » Non, sinon, il y a des gens qui écoutent sur Internet qui disent « Je ne comprends rien à cette église, la bonne nouvelle. » Il y a des juifs pratiquants qui s'associent avec des pasteurs. Non. Même si on aime beaucoup la communauté juive. Et il me disait, à l'époque, il y avait un rabbin qui dit « Vous savez, la science ne découvre rien dans l'absolu. Ou plus exactement, elle n'invente rien. Elle découvre au sens étymologique, c'est-à-dire qu'elle enlève la couverture. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Alors, ça remonte un peu. Hein. Il disait, s'il y a des magnétoscopes en bas, c'est parce qu'il y a des magnétoscopes en haut. On va revoir le film. Ils vont te le montrer, le film. Et il faudra que tu te justifies sur tout ce que tu as fait. Mais nous, ce n'est pas le cas. Si on a accepté Jésus dans notre vie, il n'y a pas de jugement. En tout cas, pas ce jugement-là. Pas le jugement de la colère. Il y a le jugement des récompenses, mais on ne va pas en parler ce soir. C'est écrit, regardons les Écritures. Celui qui écoute ma parole, première chose à faire, il faut entendre la parole de Dieu. Si tu ne l'entends pas, qu'est-ce que tu veux croire ? Il n'y a rien à croire. Mais si tu l'entends et que tu crois, ce qui me fait dire que c'est une décision. Parce que si ça n'était pas une décision, alors ça voudrait dire que Dieu est injuste. Parce qu'il a créé certaines personnes capables de croire et certaines personnes pas capables de croire. Mais à celles qui ne sont pas capables de croire, il les juge coupables en disant « Tu as rejeté, donc ma colère demeure sur toi. » Ce n'est pas juste cette histoire-là. Je demande à quelqu'un qui serait incapable de faire quelque chose de le faire et parce qu'il ne le fait pas, je le punis ou je le condamne. Ça n'a aucun sens. Non, non, non. C'est une décision de croire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dès le début du culte, attention à notre attitude de cœur. Et ensuite, il nous est dit, celui qui entend et qui croit, il a la vie éternelle. Point. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Romains chapitre 5, verset 9. On regarde plusieurs écritures. Ça va ? C'est OK pour vous ? Remarque, il vaut mieux à l'église. Sans quoi je vous donne la météo. Ou je chante, mais ça n'a aucun intérêt. Romains 5, 9, il nous est dit, même verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» En paraphrasant, on pourrait dire Jésus est mort pour nous, pas parce qu'on avait tout fait de bien, il est mort pour nous alors qu'on avait tout fait mal. Ça montre l'amour de Dieu. Avant que je puisse bouger le petit doigt, Dieu m'a déjà aimé. Et ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Il a envoyé Jésus. Pourquoi faire ? Mourir à ma place, prendre la punition à ma place. Et il nous est dit, si, alors que je n'avais pas la vie en moi, que j'étais ennemi de Dieu, Dieu a manifesté son amour comme cela à mon égard, eh bien, maintenant que j'ai la vie en moi, je suis sauvé par lui de la colère. Vous comprenez ? J'ai été justifié par son sang. Justifié, ça veut dire acquitté, blanchi. Est-ce que c'est la même personne qui cherche à joindre tout le monde dans l'église ce soir ? Ce qu'il va peut-être falloir lui répondre à un moment donné, si c'est vraiment si important. Hein ? J'étais en train d'y penser. Et quelqu'un a dit « c'est Dieu ». Écoute, il a décidé de parler par moi ce soir. Mais peut-être, il faudra... Bon, peu importe, je vous montrerai. C'est toi qui avais envoyé un truc très marrant à ce sujet. Hein ? Oui, c'est ça. À propos du téléphone à l'église. On vous le montrera plus tard. Colossiens au chapitre 1, toujours dans le même... On voit plusieurs versets qui confirment la même chose systématiquement. Colossiens au chapitre 1, il nous est dit versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Vous savez, il y a... certaines églises, certaines dénominations qui prétendent que parmi les chrétiens, parmi les croyants, il y a des degrés. Il y a les saints. Alors ça, c'est le top. Une fois que tu as atteint ça, c'est que vraiment, t'es... Bon, en général, tu n'es plus là. Donc ça ne sert plus à grand-chose, puisque tu es déjà avec Dieu. Donc tes qualificatifs, finalement, bon. Et puis, il y a ceux qui sont ici. Alors eux, c'est les... Voilà, c'est en dessous. C'est en dessous du saint. Bon. Mais ce n'est pas ce que disent les Écritures. Saint veut dire mis à part, tout simplement. On va crever un peu la baudruche théologique et tout le jargon chrétien. Saint, ça veut dire coupé pour mettre à part. D'accord ? Donc, à partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous avons été coupés de la rébellion, de la colère, et on est à part. Et regardez ce qui est écrit ici. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Lolo, est-ce que je peux avoir... Il reste une Bible là-bas, s'il te plaît. Je crois que c'est second 21 et la traduction est plus moderne. Je voudrais vous la partager. Mais vous voyez ce que Jésus a fait ? Il a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions être délivrés de la puissance des ténèbres, ce qui veut dire... Merci. Ce qui veut dire que sans Jésus, tu es esclave des ténèbres. Prends-le comme tu veux, tu te crois libre, tu te crois cool, jeune, fun, yo, t'es rien de tout ça. T'es rien de tout ça, tu es esclave comme les autres. de la puissance des ténèbres, de la nature qui est en toi. Mais en Jésus-Christ, tu es libéré de cette chose-là. Je vais essayer de vous le lire dans cette version-ci. Et non seulement tu es libéré, mais tu n'es pas libéré pour être laissé tout seul. Tu es libéré pour être transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, en qui tu as tes péchés qui sont complètement pardonnés. Colossiens chapitre 1. Alors, verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, c'est à peu près la même chose, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Ok ? Je voudrais vous parler de quelque chose en deux mots. Regardez avec moi dans le Lévitique. Donc, hop, on fait un bond de quelques milliers d'années en arrière. Lévitique au chapitre 16. Et pendant que vous cherchez Lévitique chapitre 16, je vais vous lire Colossiens chapitre 2. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Bible, elle est décomposée en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous parle de ce que Jésus a accompli pour nous et de tout ce qui vient après. L'Ancien Testament nous parle de ce qui s'est passé entre la création du monde et la venue de Jésus. Sous l'Ancien Testament, il y a une bonne partie des millénaires, je dirais, qui ont été placés sous la loi, c'est-à-dire non seulement les 10 commandements, mais les 600 autres qui vont avec et qui disent à l'être humain, voilà, si tu fais ça, tu seras récompensé, si tu fais ça, tu seras puni. La religion de base, quoi. Hein ? D'ailleurs, toutes les religions du monde fonctionnent de la même façon. Le christianisme n'est pas une religion. Et sous la loi, le peuple juif avait l'obligation, il le fait encore aujourd'hui, d'accomplir chaque année un rituel qui s'appelle Yom Kippour. Vous en avez déjà entendu parler, et pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, en général, c'est quand les boutiques de votre quartier sont fermées. D'accord ? Quand vous voyez que tout est fermé, ou presque, c'est parce que c'est Yom Kippour. C'est-à-dire que le plus non-pratiquant des Juifs, celui-là, cette fête-là, il l'a fait. D'accord ? Parce que c'est la fête où on va lui pardonner tous ses péchés. Donc s'il y en a une sur laquelle il faut jouer faire all-in, c'est celle-là, c'est Yom Kippour. Et dans Lévitique, pardon, il nous est expliqué comment faire Yom Kippour, ce que c'est que Yom Kippour. Mais dans Colossiens, il nous est dit quelque chose d'intéressant, chapitre 2, verset 17, il nous est dit « Tout cela, c'est-à-dire tous les rituels, toute la loi, n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » C'est-à-dire que, même s'il continue de le pratiquer aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, c'était que des rituels qui annonçaient quelque chose qui allait se manifester. C'était pour une période donnée, dans le but d'annoncer la réalité. Et la réalité, la vérité, se trouve en Christ. Vous avez un verset similaire qui se trouve dans Hébreux au chapitre 9, verset 23, pour ceux qui prennent des notes, et qui nous dit « S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. » Vous vous souvenez peut-être que quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, Dieu lui a fait voir le ciel. Pas le ciel, la Voie lactée. Hein. Il lui a fait voir son royaume. Et il lui a dit, maintenant que tu as vu ça, tu vas reproduire ce que tu as vu en modèle réduit sur cette planète. Donc, ceux qui ont vu Rencontre du troisième type, ça vous donne un aperçu du truc. D'accord ? Et ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'ils ont moins de 40 ans, ben vous pouvez le trouver sur YouTube, sans doute, aujourd'hui, je pense. Mais je vous encourage à le voir. Je vous encourage à le voir. Mais le modèle réduit sur Terre n'est que la reproduction de la réalité, qui, elle, se trouve au ciel. Et tout ce qui fait partie de la loi et de la purification, etc., etc., les sacrifices qui sont toujours pratiqués par le peuple juif aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est la représentation terrestre d'une réalité plus grande, de la vérité qui, elle, est au ciel et qui ne s'explique qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand vous lisez la loi, quand vous lisez l'Ancien Testament, tout, absolument tout ce qui a été ordonné pointe vers Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. La victime elle-même, c'est Jésus-Christ. Yom Kippour, c'est Jésus-Christ. Regardez avec moi dans Lévitique. Chapitre 16, versets 5 à 22. L'Éternel, 5 à 22, pardon. Il recevra le souverain sacrificateur. Il recevra de l'assemblée des Israélites deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Ça veut dire qu'avant de présenter un sacrifice pour les péchés du peuple, il fallait d'abord que le souverain sacrificateur soit clean, lui-même. Sans quoi, la Bible nous dit, mort sur le coup, s'il s'amusait à rentrer dans la présence de Dieu. Aaron le sait bien parce que ses deux fils ont voulu jouer à ça et ils sont morts dans la présence de Dieu. Donc je pense qu'il devait prêter attention à ce que Dieu était en train de lui dire. Tu vas d'abord présenter le taureau en sacrifice pour toi et ta famille. Et ensuite, tu prends les deux boucs et tu les placeras devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, c'est-à-dire avant que le temple ne soit construit en pierre à Jérusalem. Pendant X années, il y a eu un modèle réduit portatif, montable, démontable, qui était une espèce de tente, ce qui est vrai, qui était une espèce de tente géante qu'il devait monter et démonter à chaque fois. D'accord ? Il tirera au sort entre les deux boucs, l'un sera pour l'Éternel et l'autre, d'après certaines versions, sera pour Azazel. Dans d'autres versions, c'est sera un bouc émissaire. Vous avez déjà entendu ? Ah, c'est le bouc émissaire, ça vient de là. Et on va voir ce que c'est qu'un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et être lâché dans le désert pour Azazel, ou en tant que bouc émissaire. Verset, on va descendre un petit peu plus loin, verset 15. Le souverain sacrificateur égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et en portera le sang derrière le voile. Donc on voit qu'il y avait deux boucs, un qui était destiné à être abattu et dont le sang servait à servir d'expiation pour les péchés du peuple. D'accord ? C'est-à-dire qu'il prenait sur lui de verser son sang pour le pardon du peuple. Il fera avec ce sang comme il a fait avec celui du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, etc. Il fera l'expiation du sanctuaire, etc. etc. Et ensuite, il nous est dit, verset 20, « Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride. Il sera chassé dans le désert. » Et ce qui n'est pas écrit ici, mais ce que vous trouvez dans les écrits juifs, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois, vous avez compris qu'il y a deux boucs. Jésus a été les deux à la fois. Son sang a été versé pour le peuple, et il a pris sur lui les péchés et les fautes de tout le peuple, et il est allé dans les lieux arides. Et les lieux arides dans les Écritures sont un symbole de l'enfer. Mais ce que nous disent les écrits juifs, et c'est assez intéressant, vous trouvez des illustrations sur Internet, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était destiné à amener ce bouc dans la montagne, seul, il y avait un long chemin à parcourir, et il l'emmenait tout en haut d'une falaise. Et lorsqu'il l'emmenait tout en haut d'une falaise, ce bouc avait un morceau de tissu, je crois que c'était de la laine, il me semble, mais je ne suis pas certain, rouge, qui était sur lui, et la personne qui avait le bouc avec lui prenait un morceau de tissu, l'accrochait à une pierre ou un rocher qui était là, puis il prenait le bouc et il le jetait dans l'abîme. Il le jetait de la falaise et le bouc allait s'écraser en bas. Et si la laine ou le morceau de tissu que le Lévite, je pense que c'était un Lévite, avait, ou un Cohen peut-être, avait gardé avec lui passer de rouge à blanc, c'était un miracle, ça veut dire que les péchés du peuple étaient pardonnés. Et vous retrouvez ce verset à un moment donné, où le Seigneur dit « Venez et discutons, présentez votre défense et vous verrez si je ne vous rends pas plus blanc que la neige, vous dont les fautes étaient écarlates, etc. etc. » D'accord ? Je le cite très mal, mais vous retrouvez ça. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est une image qui a été pratiquée, c'est plus qu'une image, c'est un rituel qui a été pratiqué pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, par les Juifs, et qui amenait à ce que Jésus allait accomplir pour nous. À la fois son sang a été versé, et à la fois il est allé en enfer à notre place, parce qu'une fois, la Bible nous dit, on n'est pas des êtres de chair et de sang uniquement, nous vivons dans un corps, mais nous sommes à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce que Jésus est devenu une fois qu'il est mort sur la croix ? La Bible nous dit, il a pris tes péchés et il est allé en enfer à ta place. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité et l'a justifié. Amen, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Bien. Mais tout cela, ce dont je vous ai parlé, la Bible nous dit, c'était l'ombre de la réalité qui, elle, est en Christ. Quel est le point de ce que je veux dire ? Jésus, on l'a vu, nous délivre de la colère à venir. Et la Bible est très claire, nous n'avons aucune crainte à avoir si nous avons reçu Jésus dans notre vie. Regardez avec moi dans 1 Jean. 1 Jean, au chapitre 4. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? 1 Jean au chapitre 4. Vous êtes toujours en train de recevoir de Dieu ? Ou vous avez coupé le robinet ? 1 Jean chapitre 4, il nous est dit... Verset 14. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Pourquoi ? Parce que nous n'y serons pas soumis. Nous le verrons en tant que témoins, mais nous n'y serons pas soumis. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Pas nous serons tel que lui, il est. Nous sommes déjà maintenant tel que Jésus est. Et il continue en disant, il n'y a pas de peur dans l'amour. Rien que cette phrase-là, on pourrait... méditer dessus pendant des semaines. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Parce que, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Pourquoi ? Parce que la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Parfait ne veut pas dire irréprochable, parfait veut dire parvenu à sa pleine maturité, à son plein accomplissement. Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ici ? Il est en train de dire, si tu as Jésus en toi et que tu expérimentes encore de la peur dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore compris à quel point Dieu t'aime. Tu as peut-être eu une certaine dose de connaissance à ce sujet, d'expérimentation, de révélation, mais il y a encore plus. Parce que si l'amour était parvenu à son plein accomplissement, à sa pleine maturité en toi, tu n'aurais plus aucune peur dans ta vie. Alors moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a en vous, et j'en connais certains mieux que d'autres, mais je ne suis pas forcément dans leur cœur, dans leur intimité. Mais s'il y a des domaines dans lesquels vous avez encore des craintes ou encore des peurs, ce verset vous donne la clé. Il faut méditer sur l'amour que Dieu vous porte. Il nous est dit ensuite, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Jean est quelqu'un qui était parvenu à ce degré de maturité dans l'amour. Et il nous donne la clé. Il dit, vous savez pourquoi j'aime Dieu ? Parce que j'ai compris qu'il m'avait aimé d'abord. Et pourquoi j'ai plus de peur aujourd'hui ? Parce que cet amour de Dieu est parvenu à sa pleine maturité en moi. Mais il nous a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, la peur implique une punition. D'une façon ou d'une autre. Moi, je ne suis pas psychothérapeute. Mais je crois ce qu'il y a écrit là. Et je crois que ce qu'il y a écrit là, c'est écrit dans des mots qui sont très simples. Mais qu'en réalité, c'est extrêmement profond. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a la peur d'une punition quelque part. Et s'il y a la peur d'une punition, c'est peut-être parce que tu estimes que tu n'as pas suffisamment bien fait. ça peut être une explication. Parce que tu as été éduqué à ce que c'est jamais assez. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez parfait. C'est jamais fait comme il fallait. Oui, c'est bien, mais tu n'as pas assez. Ou alors, le coup de bâton systématique, au propre ou au figuré. Vous savez, quand on reçoit Jésus dans notre vie, on est sauvé immédiatement. Parce qu'on se connecte à ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Mais notre façon de penser, elle a besoin de changer. Et ça, c'est un processus. Donc si on a été éduqué d'une certaine façon pendant X années de notre vie, et qu'il y a des domaines dans lesquels on n'a pas accepté de laisser le Seigneur changer notre façon de penser, eh bien, dans ces domaines-là, on n'a pas encore changé. Et si on n'a pas encore changé, la Bible nous dit, si c'est un domaine où, d'une façon ou d'une autre, tu crains une punition ou un châtiment, alors tu vas expérimenter de la peur dans ta vie. Et la peur, c'est un maître qui est dur. Elle t'amène à ne pas faire ce que tu devrais et elle t'amène à faire ce que tu ne devrais pas ou ce que tu ne voudrais pas. J'en parlais encore ce matin. La plupart des problèmes aujourd'hui, la plupart des problèmes de l'humanité, c'est parce que l'être humain est motivé par la peur. Peur de manquer, peur d'être seul, peur de décevoir, peur de. Mais si nous sommes en Christ, la Bible est claire. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de colère. Dans Romains chapitre 8, vous le relirez, il nous est dit, il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Christ. Donc vraiment, je veux vous encourager. Et je sais que je parle à des gens qui ont, pour la plupart, reçu le Seigneur dans leur vie. Mais nous sommes tous appelés à grandir et à être de plus en plus libres, de plus en plus libres, de plus en plus libres. Et ça, la Bible nous dit, il y a les symptômes, il y a les racines. Des fois, tu vois le symptôme, mais tu ne sais pas que derrière, c'est parce qu'il y a une racine. Ça peut être une chose sur laquelle réfléchir. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, nous l'avons vu, la colère de Dieu demeure sur eux. Mais ce n'est pas inéluctable. Jésus a fait ce qu'il fallait pour pouvoir nous libérer de cela. Dans Romains, au chapitre 2, il nous est dit, verset 4, et je vais vous le lire, mais d'abord je vous fais une petite parenthèse. J'entendais quelqu'un tantôt dire que Dieu déteste le péché. Et il devrait en être de la sorte pour nous également. On ne devrait pas avoir de tolérance pour le péché, on ne devrait pas avoir de compromis pour le péché. Mais il aime le pécheur. Et parfois, quand quelqu'un nous fait du tort, tout de suite, notre sentiment naturel, c'est de réclamer justice et de réclamer vengeance. C'est un petit peu ce qui s'était passé pour Jacques et Jean, quand Jésus leur a dit « Allez me préparer un endroit », et puis ils sont revenus en disant « Il n'y a personne qui veut te recevoir ». C'est Samarie, c'était en Samarie. « Et est-ce que tu veux qu'on commande à la foudre de descendre sur eux, de les cramer sur place ?» Voilà, comme ça, tac, comme Élie, hein, dans l'Ancien Testament. Tu te souviens ? Et la Bible nous dit que Jésus les a sévèrement réprimandés en disant « Vous ne savez pas quel esprit vous anime. » C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus du tout dans l'amour. Ils n'étaient que dans la réaction, que dans la vengeance. Et alors que Jésus avait la possibilité de faire cela. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le pouvoir de faire cela. Mais c'est qu'il a dit « Ce n'est pas l'esprit qui m'anime. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Et donc, la personne qui parlait expliquait la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Et derrière moi, il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup de commentaires depuis le début et qui disait « Ouais, eh ben, je ferais bien avoir un peu moins de patience avec les gens, des fois, hein, un peu moins de miséricorde. Hein. » Alors, comme je n'étais pas chez moi, je me suis mordu la langue. Mais si j'avais été chez moi, j'aurais dit « Il en a pourtant eu avec toi. » Je ne connais pas la personne, mais je suis sûr de faire mouche à chaque fois avec ça. Parce que la Bible nous dit, on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu, et Dieu nous a tous pardonnés en Christ. Est-ce que cette personne avait vécu quelque chose de difficile, pensé à quelque chose en particulier ? C'est fort possible. Mais Romains, chapitre 2, verset 4, il nous est dit, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité ?» en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. » Dans d'autres versions, il nous a dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Vous voyez, on a beaucoup entendu un message culpabilisateur dans les églises au sens large. Et ce message culpabilisateur avait un but qui était un bon but, qui était de dire « il faut que tu changes de vie, il faut que tu te tournes de cette façon de vivre-là, et il faut... » Alors, quand je dis cette façon de vivre, les gens qui ne connaissent pas Jésus pensent que c'est une invitation à aller dans un monastère. Pas du tout, du tout, du tout. D'accord ? Mais c'est juste, tu continues de vivre ta vie, seulement il y a Dieu qui est avec toi désormais. Et il va t'amener au fur et à mesure à changer sur ce qui a besoin de changer. Mais tu n'es plus seul, et tu es libre. Mais... on a entendu des messages culpabilisants en disant « t'as fait ça qu'il fallait pas, t'as pas fait ça qu'il fallait ». Et vous vous rendez compte à quel point on loupe le coche, et à quel point Dieu est exigeant, et à quel point nous, on n'est pas à la hauteur, etc., etc. Et la Bible nous dit c'est exactement l'inverse qui se passe. Plus tu appuies de la sorte, plus les gens vont avoir envie de faire ce qu'il ne faut pas faire. L'inverse, c'est que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à nous repentir. Qui nous pousse, et repentir, dans le texte, ça veut dire changer de façon de penser. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est que les gens voient Dieu différemment. Tout simplement. Ça s'appelle la repentance. Changer de façon de penser. Tu as entendu parler de Dieu d'une certaine façon, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, lui, il nous aime et il nous délivre, et il paye pour nous, et il fait le premier pas, et il sait très bien qu'on n'est pas en mesure de payer, et il vient payer la facture à notre place. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est la patience de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est la générosité de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 4, c'est très clairement dit. 1 Timothée 2, 4, il nous est dit « Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il y a les deux choses. Être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On peut être sauvé et vivre encore d'une certaine façon dans le mensonge, ne pas avoir encore pris conscience pleinement de la vérité sur certaines choses. D'accord ? Et ici, la volonté de Dieu, elle est très claire. Est-ce que Dieu est un grand marionnettiste et qu'il décide de tout ce qui se passe ? Ben ici, on a la réponse à cette question. Non. Non. Tout ne se passera pas comme Dieu aura voulu. Parce que si c'était le cas, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, pourquoi certaines personnes passeront l'éternité sans lui ? Pourquoi certaines personnes demeurent sous la colère ? Parce qu'elles sont libres de choisir. Et elles sont libres de choisir même à l'inverse de ce que Dieu voudrait pour nous. Donc c'est un choix. Mais la volonté de Dieu, elle est très claire. Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Jésus a été envoyé alors que le pouvoir de juger lui a été remis. Il nous dit « Je ne suis pas ici pour juger. Pas pour l'instant. Je suis ici pour sauver. » Et c'est ça l'image de Dieu avec laquelle je veux vous laisser. Alors, je ne connais pas tout le monde ici. Et peut-être certains ont déjà fait cette expérience et ce pas dans leur vie de dire « Moi, je veux que ma vie, elle change. J'étais sans Dieu et je veux être avec Dieu maintenant. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, je ne comprends pas tout, mais ce que j'ai compris, en revanche, c'est que, petit 1, Dieu est bon et qu'il m'aime. Petit 2, c'est qu'il ne tient pas compte de mes péchés, mais qu'il veut me sauver. En réalité, il a déjà fait ce qu'il fallait pour cela, mais je dois l'accepter. Petit 3, si je ne le fais pas, alors, la Bible me dit que la colère de Dieu demeure sur moi. Pour l'instant, tu ne le vois pas, parce que nous sommes sous la grâce, et que Dieu étend la miséricorde en disant « Rentre avant qu'il soit trop tard ». Vous vous souvenez, il y a un passage dans les Écritures qui dit que c'est comme au temps de Noé. Noé, il a prêché pendant je ne sais pas combien d'années. Vous savez, l'arche, elle ne s'est pas construite en 3 semaines. Hein. Et il a prêché. prédicateur de la justice, prédicateur de la justice, prédicateur de la justice. Et il n'a fait face qu'à de l'hostilité. Et puis à un moment donné, le déluge a commencé, et Dieu a fermé la porte de l'arche. Et là, c'était trop tard. Trop tard. Moi, je ne suis pas là pour faire peur à quiconque. Je suis là pour dire ce que dit la Bible et pour donner une autre image de Dieu. À la base, l'endroit où vont passer l'éternité les gens qui ne veulent pas de Dieu n'a pas été créé pour l'humain, pour l'être humain. Il a été créé pour le diable et pour ceux qui l'ont suivi. Mais ensuite, l'être humain a fait son choix en disant « Moi, je veux vivre sans Dieu. » Et Dieu respecte. Alors ça, s'il y a bien quelque chose qui le caractérise, c'est qu'il nous respecte. Mais il faut bien que les gens qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie aillent quelque part, parce que cette terre, on y est pour quoi ? 80, 90, 100 ans ? Des fois moins, des fois plus ? Mais c'est très court. Une fois qu'on est parti, où va-t-on ? La Bible nous dit, avec Dieu ou sans Dieu ? Si c'est avec Dieu, on voit le genre de Dieu que c'est. Bon, miséricordieux, puissant, aimant. Le Père dont on peut rêver. Sans Dieu, l'endroit qui a été préparé pour le diable et pour les démons. Et si vous lisez les Écritures, vous avez quelques descriptions de ce qu'est cet endroit-là. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors si vous êtes là ce soir et que vous dites « Moi, je n'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça, et ça me touche, et j'aimerais inviter Dieu dans ma vie. » Rapidement, levez la main et je prie avec vous. Et c'est très simple. Le salut est à une prière de vous. Il n'y a rien à mériter. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Il n'y a rien à mériter. Le seul qui a mérité, c'est Jésus. Il y a cette illustration qui a été donnée. Jésus a été le paratonnerre. Vous savez ce que c'est un paratonnerre ? C'est la pièce de métal que vous mettez au-dessus de votre maison pour éviter que si la foudre frappe la maison, tout crame. Et vous avec. C'est la pièce de métal qui prend tout. C'est ce qui s'est passé. Jésus sur la croix, ça a été le paratonnerre de Dieu. Et pourquoi je vous disais que Dieu ne juge plus personne ? Parce que le dernier jugement qu'il a exercé, ça a été de placer sur Jésus la totalité de nos péchés. Tellement il aime l'être humain, il a dit, c'est Jésus qui va tout prendre. Et Jésus était d'accord pour cela. Mais pour ceux qui ne veulent pas, Dieu respecte. Dans ce cas-là, tu n'es plus sous le paratonnerre. Alors, peut-être vous écoutez sur Internet aussi. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le message sur Internet. Et je voudrais vous inviter. Vous savez, il y a des trains qu'il ne faut pas laisser passer. Oh, j'ai le temps. Ça, tu n'en sais rien. Mais si vous n'avez jamais invité Jésus dans votre vie et que vous dites, mais moi, je veux vivre cette vie avec Dieu désormais, c'est très simple. Il vous suffit de faire cette prière, dire, Père, mon Dieu, je ne te connaissais pas, mais ce que j'ai entendu de toi, c'est que tu es bon. Et ce que j'ai entendu de toi, c'est que ton fils Jésus a payé sur la croix pour mes fautes, mes péchés. Il est mort et tu l'as ressuscité, justifié, acquitté, pour que moi, aujourd'hui, je puisse bénéficier de cela. Seigneur, je te demande pardon et je veux recevoir ton amour, ta grâce, ta vie et être avec toi pour l'éternité. Amen. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, le meilleur conseil que je puisse vous donner, allez dans une église. Celle-ci, il y en a d'autres qui sont très bien. Allez dans une église. Connectez-vous à un corps local de chrétiens où vous allez pouvoir entendre la vérité semaine après semaine. Parce que si vous deviez juste prendre la Bible et la lire chez vous, vous seriez rapidement largué. Allez dans une église où vous allez apprendre cela. Allez dans un groupe de maison. Dans cette église, on en a. Dans d'autres églises, il y en a aussi. Connectez-vous à des chrétiens où vous allez pouvoir entendre la vérité. Et si vous dites, moi, j'ai le Seigneur dans ma vie, mais il y a ces domaines-là dans lesquels j'éprouve encore de la peur, alors je voudrais vous encourager à élever ça au Seigneur et à ouvrir la porte de telle ou telle ou telle pièce de votre cœur au Saint-Esprit. Saint-Esprit est quelqu'un de très doux. C'est un chirurgien qui peut tout guérir. Mais il ne le fait pas de manière violente. Il le fait de manière douce. Donc si vous dites, Seigneur, moi, je détecte quelques symptômes qui ne me conviennent pas, je ne sais pas où est la racine, mais je te demande de m'aider. Il va le faire. Il va le faire. C'est le meilleur psychothérapeute qui soit. Et il va vous révéler la vérité parce que c'est ce qu'il nous est dit dans Jean 14, 15, 16. Un de ses rôles, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Et il va vous révéler également ses paroles. Méditez sur les versets qu'on a vus ce soir, sur le fait que Jésus nous a délivrés de la colère de Dieu, que nous ne sommes plus sous la colère, que nous ne sommes plus sous le châtiment, plus sous la punition. Nous n'avons plus à prouver, nous n'avons même plus à plaire. Il y en a, ils veulent toujours plaire. Ils ont besoin de s'attirer la sympathie, d'une certaine façon de séduire pour... Moi, j'ai été comme ça. Il fallait que je sorte du lot. Et comment ça se règle ? Grâce à l'amour de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il y en a, ils ont besoin de dire « Ah, c'est jamais assez ce que je fais. Il faut toujours prouver, il faut toujours en donner plus. » Jusqu'au burn-out. Ça, c'est un symptôme. Et le Saint-Esprit va te révéler ces choses-là. Seigneur, je te demande de le faire dès à présent. Je crois que ta parole est la vérité et ta Bible nous dit que quand on connaît la vérité, ça nous rend libre. Tu es la vérité, Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Le seul. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta parole. Tu t'es débrouillé pour qu'elle traverse les siècles jusqu'à nous intacte, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. C'est pas rien. On a l'Esprit du Dieu vivant en nous. Sur nous et en nous. Seigneur, nous ne voulons pas être esclaves de quoi que ce soit, et certainement pas de la peur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être encore dans les ténèbres, être liés. Tu nous as libérés. Ça t'a coûté suffisamment cher, Seigneur, pour qu'on puisse en profiter jusqu'au bout. Je te bénis, mon Dieu. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît ? Et tout simplement, laissez parler votre cœur au Seigneur. Pendant que la musique continue, on peut monter un peu le volume. Laissez parler votre cœur au Seigneur. Si vous dites « Ah, je suis un peu embarrassé, les gens d'à côté », les gens d'à côté, d'abord, ils s'en fichent. Et ensuite, fais quelques pas et isole-toi si nécessaire. Va sur la rangée de devant. Mais Seigneur, je veux te bénir. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Pour nous, oui, mais pour moi. Pour moi. Alors que je ne le méritais pas. Alors que je n'avais rien à faire de toi, alors que j'étais ton ennemi, alors que j'étais rebelle, alors que j'étais destiné à la colère de Dieu. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu m'as lavé, tu m'as vêtu, tu m'as orné, tu m'as élevé, encouragé, pardonné, rempli, donné un futur, donné une famille. Montrer la vérité, rendu capable de faire ce que j'étais incapable de faire, rendu capable de pardonner, et donc d'être libre. Tu m'as guéri, tu m'as béni. Et la louange, Seigneur, c'est ma reconnaissance par rapport à tout ça, l'expression de ma gratitude. Seigneur, tu es beau, tu es bon. T'adorons ce soir. Merci pour le travail que tu continues de faire, parce que tu as dit, Seigneur, que tu voulais faire de tous les croyants une épouse sans tache, sans ride, sans défaut, parfaite, Seigneur. Et c'est toi qui le fais en nous. Je suis ouvert à plus de changements, Seigneur. Mon église est ouverte à plus de changements. Merci Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons. Père, nous prions au nom de Jésus. Toi, le roi de l'univers, tu as décidé de venir jusqu'à nous. En Christ. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On ne peut pas concevoir ça, Seigneur. Et tu ne nous demandes pas de le concevoir, Seigneur. Tu demandes juste de le vivre et de te louer pour cela. Et c'est ce que nous faisons. Merci mon Dieu. ministère du Saint-Esprit dès à présent. Je sais que tu es en train de le faire parce que je sens ta présence, Seigneur. Par la foi, je le crois et je le ressens. Merci, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous dimanche prochain pour ceux qu'on ne revoit pas entre-temps. Les groupes de maison, c'est la semaine prochaine. Ce n'est pas cette semaine. Et dimanche prochain, c'est à 10h30 ici même. Voilà. Passez une bonne semaine. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié ? Dimanche prochain, c'est le culte classique. Voilà, bonne semaine. Et vous pouvez réécouter le message sur Internet pour ceux qui ne le savent pas. elbn.org. Vendredi soir, il y a la réunion avec Eric Casto. Samedi, il y a l'évangélisation. Dimanche, il y a le culte. Ce sera lui, notre orateur invité. Et c'est tout.